Quand vous rentrez chez vous le soir, vous pensez à tout ça ?
Oui, ça m'arrive, bien sûr. Ça m'arrive de penser aux patients. Je crois qu'on ne peut pas faire un métier comme le nôtre. Enfin, je crois que c'est difficile de franchir les seuils de l'hôpital et de fermer la porte en y laissant tout ce qu'on y a vécu sans y penser. C'est forcément, il y a une continuité. Je crois qu'on les porte en nous, hein, quelque part. Tous ces patients, me semble. Après, je crois que ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui s'investissent à 200% et puis qui sortent et qui me disent « Moi, quand j'ai franchi la porte de l'hôpital, c'est notre vie, donc c'est fini. » Mais j'ai simplement appris ce que ça représentait pour moi, tout simplement. Je veux dire, ce que ça représentait pour moi et ce que ça voulait dire être malade.
J'arrivais pas à marcher, je trébuchais, je montais plus les escaliers, j'étais plus capable de faire 100 mètres en marchant, courir, n'en parlons pas. Donc soit on arrête tout et puis on s'installe devant la télé sur un fauteuil, une bière à la main, ou alors on essaie de faire quelque chose, et c'est là j'ai essayé de chercher.
D'un point de vue humain, c'est mon expérience avec les années qui m'ont apporté, pas mes études. Parce que pendant les études, à cette époque-là, il n'y avait pas... Enfin, j'ai pas un grand souvenir de tout ce qui était psychologie du malade, même à la limite psychologie du soignant, qu'est-ce qui se jouait.
Une fois que j'ai eu ce feeling de professionnel, de savoir que des gens s'occupent, savent ce qu'ils font et essaient de faire un diagnostic de ce qui m'arrive, là, soulagé de reposer le fardeau, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'intéresser à soi tout le temps, quoi. Puis on a marre, on ne parle que de ça.
Infirmière, ça allait de soi. C'était donner un sens à sa vie en s'occupant des gens, tout simplement. Je ne dirais pas que je suis dans cette lignée d'infirmière religieuse, parce que religieuse, ça signifie abnégation, ça signifie quelque chose de l'ordre de la... Enfin, de la résignation, de la soumission, entre guillemets. Dans ce sens-là, non, je me sens pas reliée à elle. Non, je pense que c'est plutôt dans un besoin d'aider, dans un besoin de soulager. Voilà, c'était ce qui me paraissait à moi le plus important.
Je ne suis pas docteur, moi. Hein. Je subissais, c'est tout.
Mais vous vous disiez, c'est grave, c'est pas grave ?
Non, je ne me pose pas tant de questions. Vous savez, je suis assez fataliste. Parce que dans la vie, il faut être fataliste. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Enfin, j'étais à l'école. Moi, mon université, ça s'est terminé sur les bancs de la communale. Hein. Vous m'avez compris ?
Donc quand on s'installe dans l'ignorance, quand on ne sait pas, on est heureux. On est heureux. Avant, je préférais qu'on me dise que j'ai rien, plutôt que d'apprendre que j'ai une maladie bizarre ou un truc. Donc qu'on me dise que je suis guéri, après tout, hein, on prend sur soi, on fait des efforts, on y va, c'est peut-être psychosomatique, des choses comme ça, mais on y va. Et en fait, on est soulagé d'un côté de ne pas avoir autre chose. Et c'est vrai que mon corps me disait que quelque chose n'allait pas, j'étais fatigué, je n'arrivais pas à marcher, je montais les escaliers, j'avais mal aux genoux, j'avais plus de jambes, je ne pouvais plus courir. Juste avant, j'essayais de jouer au foot, j'adorais jouer au foot. Mais je ne pouvais pas, j'arrivais pas à coordonner mes mouvements, les pieds.
Bon, avant j'avais mes deux doigts, là, l'annulaire et le petit pouce, qui étaient repliés sur moi-même. Bon, maintenant, grâce au traitement que je reçois ici, j'ai repris la mobilité, mais pas la sensibilité. Hein. Donc il y a quand même de l'amélioration. Là, vous voyez, c'était vide. Là, maintenant, ça s'est rempli. J'ai plus la main de singe qu'on appelle. Hein.
Je pense que c'est la spécialité dans laquelle on travaille qui est un peu particulière. Parce que c'est quand même une spécialité... moi, j'estime que c'est une spécialité où il y a des patients qui sont en grande souffrance à tous les niveaux. Parce que dans la maladie neurologique, vous avez une atteinte physique très importante, qui fait qu'il y a une modification de l'image corporelle qui aggrave cette souffrance. Il y a le regard des autres, il y a la dépendance qui fait que ça entraîne des dimensions très particulières avec les familles, une organisation, un retour à domicile qui parfois est compliqué. Il y a des situations familiales, sociales qui sont compliquées parce que les gens ne peuvent pas reprendre leur travail. C'est souvent des maladies qui vont évoluer sans espoir de guérison.
Le tort que j'ai eu, c'est justement de ne pas essayer de chercher à comprendre. Donc j'ai fait confiance au système et je me suis complètement trompé. La faute que j'ai faite, c'est bien séparer le patient et le médecin. Donc je me suis mis complètement dans le rôle du patient. Je me dis, ah, le monsieur m'a dit que j'avais rien, donc j'ai rien. Donc si j'ai des problèmes, je vais faire des efforts et je vais prendre sur moi.
Et alors, avec le neurologue en Corse, comment ça s'est passé ?
Très mal. Très mal. Parce que c'était un docteur un peu charlatan sur les bords. Oh ben, je vous dis une chose. Il n'y a pas tellement longtemps, il a pris des coups de poing sur le nez, en salle d'opération. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Hein. Il y avait un patient sur la table, et il y en a un qui lui a mis des... Hein ?
Mais pourquoi ?
Parce qu'il est spécial, hein, c'est un petit rigolo, c'est tout.
Donc, à partir du moment où je me suis rebellé, en quelque sorte, contre le diagnostic du premier médecin, c'est là où j'ai fait des recherches sur Internet, en listant mes symptômes, etc., etc., et je suis arrivé plus ou moins à la conclusion donc, de voir un autre neurologue en France en expliquant ce qui m'arrivait de telle façon. Et
c'est de là qu'il m'a dit, non, là, c'est les nerfs qui mange des muscles, là. Le nerf qui mange des muscles. Il me fait, oui, fait parce que il y a le nerf qui est coincé dans la gaine. Il me fait, je vais faire une petite incision, je vais élargir la gaine, et vous allez voir, vous allez pouvoir marcher. Bon, je l'ai cru, hein. J'allais pas aller contre, je peux pas aller contre, pour la bonne raison que j'ai pas fait des études de médecine. Hein.
Un diagnostic, c'est comme une enquête policière. On peut pas désigner l'arme du crime ou le coupable sans savoir comment ça a commencé. Et quand j'ai eu le rendez-vous ici à la Timone, 2 mois après, où là, je suis arrivé et je dis, voilà, je pense que je serais plutôt dans tel groupe de maladies, etc. Donc j'avais même été très précis. Moi, j'avais dit, moi, je pense que c'est une amyotrophie spinale type 4. Ah, il m'avait, là, c'est bien parce que le médecin que j'avais eu en face de moi, je lui ai dit, je peux vous dire ce que je pense. Il m'a dit, allez-y. Je lui ai dit, écoutez, moi, je pense que c'est ça, amyotrophie spinale type 4.
Et ils m'ont fait passer l'examen qu'à Bastia, j'aurais pas pu les passer. Non, là, j'ai rien à dire contre les médecins. Bon, le médecin, il a vu les photos de la radio, bon, il s'est basé là-dessus, hein, et c'est pas Jésus-Christ, un médecin, hein.
Mais alors, c'est quoi les qualités que vous appréciez tout à l'heure? Vous disiez, c'est un professionnel, un homme qui a du mérite. C'est quoi, un homme qui a du mérite?
Eh bien, qui vraiment est approfondi, comment je dirais, le mal de la personne. Et qui essaye de son mieux pour soulager la douleur de cette personne.
C'est ça que vous n'aviez pas eu avec le neurologue?
Bon, une discussion avec lui, il n'y en avait pas. Pratiquement pas. Hein. C'était oui, non, on verra, et c'est tout. Ça, c'est le dialogue que je pouvais avoir avec lui. Alors pour moi, c'est pas un homme consciencieux. Tandis qu'ici, ils sont consciencieux.
C'était en aucune façon me substituer au médecin. Je n'ai pas ni les compétences scientifiques, ni le bagage, je n'y connais rien. Mais simplement, on s'écoute, on se connaît. Je vis avec mon corps 24 heures sur 24. Hein, donc, et ça je crois que c'est fondamental, quoi, même si... On écoute le patient parce que c'est le patient vit sa maladie, vit son corps, écoute son corps. Donc, qu'il dise ou pas des conneries, il faut l'écouter.
C'est une relation qui est très... comment dirais-je? Oui, il y a tellement de choses qui se jouent de chacun, finalement. Hein. Je pense qu'on est, on est derrière une blouse. Mais justement, je veux dire, cette blouse, à un moment donné... Ça ne doit pas être une armure non plus. Donc, chacun fait comme il peut avec son histoire. Et du coup, bon, c'est une relation qui peut effectivement être très froide, très distante, même si on est un professionnel de santé aguerri, avec une technicité très, très élevée. Je pense que c'est important, il en faut, mais... C'est pas que ça. Ça peut pas être que ça.
J'aurais eu, par exemple, l'âge du monsieur, là-bas, et je me serais fait du mauvais sang. Parce que moi, à mon âge, maintenant, je n'ai pas de mauvais sang à me faire. Hein.
Vous vous dites que vous allez vivre avec cette maladie et que
voilà,
tant
exactement.
Pis...
Exactement. J'irai entre les quatre planches avec cette maladie, c'est tout.
La guérison, c'est pas un terme que j'emploierais au sens faire disparaître complètement la maladie. Je dirais plutôt, là aussi on peut jouer sur les mots, hein, parce que la santé, qu'est-ce que c'est? C'est jamais qu'un équilibre aussi, la santé. Hein, parce que la santé physique, la santé mentale, morale. Ben, je pense que de toute façon... Pour avoir un sentiment d'avoir fait les choses jusqu'au bout, il faudrait pouvoir arriver à soulager complètement leur détresse et leur souffrance. Et ça, je crois que c'est du domaine aussi de l'utopie. Je pense qu'on peut soulager, on peut aider. Donc il faut essayer de pallier le plus possible. Je ne dis pas qu'on ne soigne pas, on ne guérit pas. On soigne.